moi je suis en train de vous faire au Cachin oriental. J'ai réussi totalement cette
question. Moi j'ai essayé de vous combattre au Cachin oriental. Je pense qu'en se rencontrant les deux, je vais précisément trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Parole aux auditeurs, une émission 100% interactive qui permet de vous exprimer. Aujourd'hui, lundi 7 décembre 2009, nous parlons du 3e congrès international de la femme noire qui s'est tenu à Kinshasa du 28 novembre au 4 décembre 2009. Ce congrès avait pour thème la promotion des ressources de la femme africaine pour le développement. Un congrès qui se tient au moment où les femmes leaders poursuivent leur plaidoyer pour la mise en application concrète de la parité homme-femme dans tous les secteurs d'activité en vue de son épanouissement. Question, que représente pour vous ce congrès tenu en RDC? Selon vous, que faut-il faire pour la promotion des ressources de la femme africaine et renforcer son implication dans les milieux de prise de décision? Pour en parler, nous avons invité Tina Abumba-Lessi. Elle est chargée de communication et presse à Africa Femmes Performance, la structure qui a organisé le congrès. Ce thème vous intéresse? Vos avis, propositions et questions sont attendus au cours de cette émission, que vous soyez en RDC ou à travers le monde. Soyez les bienvenus.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net.
Encore une fois, bonjour, comme nous vous l'avons dit dans l'annonce, aujourd'hui nous allons parler de la femme noire, grâce à ce congrès en marge du congrès, 3e congrès international de la femme noire qui s'est tenu ici à Kinshasa. Et ce congrès nous permet de pouvoir essayer d'expliquer ou de comprendre quelles sont les conditions socio-économiques et politiques dans lesquelles la femme congolaise, la femme noire est en train d'évoluer. Par rapport à ce congrès, plusieurs recommandations ont été faites, les recommandations se focalisant sur la prise en charge par la femme elle-même, l'autoprise en charge de la femme sur le plan économique. Nous avons notre première intervenante, il s'agit de Soulia. Elle était aussi, elle a participé à ce congrès. Bonjour Madame Soulia.
Bonjour, merci de m'avoir choisie.
Oui, Madame Soulia, on voudrait savoir, que représente en fait pour vous, qu'est-ce que ce congrès a représenté pour vous?
Bon, le congrès pour moi, c'était tout d'abord un retour vers mon pays, parce que ça fait quand même 26 ans que, depuis que j'ai quitté officiellement le pays, je reviens seulement ici pour des vacances, en fait.
Et là, et vous habitez où? Où est-ce que vous résidez?
Je suis une styliste, j'habite en France. Je suis Soulia M, ça veut dire Soulia Mboula. Alors, je reviens souvent ici, de temps en temps, seulement pour les vacances. Mais là, je suis revenue pour les cadres de travail. Bon. Et c'était vraiment une première pour moi. Et donc, le fait d'être invité par la première dame, c'est aussi grandiose. Et ce que ça a représenté pour moi, ça a pu m'aider à connaître d'autres dames qui ont entrepris les femmes congolaises. Je ne veux pas dire seulement femmes congolaises et d'autres, enfin. Parce qu'il y a eu toutes les femmes de tous les horizons qui étaient représentées là-bas, la femme noire en général, je veux dire. Et surtout, j'ai pu faire connaissance professionnelle avec mes compatriotes du Congo et d'autres diasporas. Et voilà, ça c'était très très important.
Ouais. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ce congrès qui s'intéresse uniquement à la femme noire, c'est pas une forme de discrimination?
Pour le 21e siècle, non. Parce que c'est pas du tout ça. J'aimerais que nos frères, ils prennent pas ça comme ça. Bon, tout d'abord, on n'a pas oublié nos coutumes. Dans nos coutumes africaines, la femme, elle est au deuxième plan. Si pas, la femme n'existait pas. Bon, là, c'est quand même un point qui a montré, c'était pour nous ouvrir, nous les femmes, et pour nous montrer qu'on peut faire quelque chose. Et il y a d'autres femmes qui ont commencé, et celles qui n'ont pas commencé, elles peuvent commencer maintenant à entreprendre, mmh. à essayer de se prendre en charge. Et ça, ça aidera beaucoup à l'avenir pour qu'elles arrivent à s'auto, je ne sais pas si tu vas voir, qu'elles arrivent vraiment à se supporter financièrement.
Oui.
Je pense, c'est vraiment important. Quand la femme, elle arrive à subvenir à ses besoins financiers, ça sera une bonne chose.
En fait. Oui, mais et selon vous, qu'est-ce qui freine en fait l'épanouissement de la femme?
Bon, toi et moi, tu sais bien qu'il y a la coutume qui nous freine derrière. Le fait de nous, quelque part, de nous déconsidérer même. L'homme, il a toujours dit, c'est d'abord lui, et la femme vient après. Donc, mais avec ces rencontres qu'on a dû faire par la femme performante, c'est une occasion de dire à la dame, allez hop, lève-toi, fais quelque chose. Voilà.
Oui, mais selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire alors pour qu'elle se sente vraiment épanouie et qu'il puisse y avoir un développement?
Bon, ce que moi je peux demander à la femme congolaise, parce qu'on est au Congo, qu'elle essaye d'y arriver par elle-même, qu'elle réfléchisse, qu'elle regarde en quoi elle peut arriver à s'en sortir, quel que soit le niveau où elle est. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Chacun a une spécialité dans sa vie. Il y a telle qui peut arriver à s'en sortir. Je veux parler localement. Celle qui pense qu'elle peut s'en sortir par faire des petits jardins de maraîchers. Celle qui pense qu'elle peut s'en sortir en préparant même le beignet et le vent devant la porte. Celle qu'elle essaie de le faire. Il faut que la femme arrive à s'en sortir parce qu'elle croit y arriver. C'est très, très important.
Merci beaucoup, Madame Soulia, d'avoir participé à notre émission. Nous avons suivi vos préoccupations, aussi vous avez fait des propositions pour que la femme puisse s'épanouir. Et bonne journée, Madame.
Merci beaucoup. Au revoir.
Parole aux auditeurs.
Nous avons notre invitée qui est en ligne. Il s'agit de Madame Tina Abumba-Lessé. Elle est chargée de communication et presse à Africa Femmes Performance. En fait, c'est la structure qui a organisé ce congrès international de la femme noire. Bonjour, Madame Tina Abumba.
Bonjour, Madame.
Oui, Madame Tina Abumba, vous avez suivi l'une de nos auditrices, mais aujourd'hui, on voudrait quand même savoir, troisième congrès international des femmes noires, la réaction, c'est d'abord de savoir pourquoi spécifiquement la femme noire. Pensez-vous qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, la couleur de la peau, la couleur noire, est-ce que ça peut constituer un handicap pour la promotion et l'épanouissement de la femme?
Non. La couleur noire ne constitue pas un handicap. Le but, c'était seulement de réconcilier les femmes de la diaspora, qui sont aussi des femmes noires, qui avaient eu l'idée de venir organiser ce troisième congrès international de la femme, les réconcilier avec les femmes qui sont ici en Afrique, qui sont aussi des femmes noires. C'est en fait un peu un retour, en Afrique, mais dans les bons sens, quoi.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'à cette époque de mondialisation, vous consacrez uniquement à la femme noire, ce n'est pas un peu dépassé?
Non, ce n'est pas dépassé. Non seulement on se consacre à la femme noire, mais on ne peut pas parler de la mondialisation si on ne peut pas non plus garder nos cultures. Il y a la diversité, c'est la diversité qui fait même qu'on parle de la mondialisation, c'est-à-dire chacune apporte sa culture et sur base de ça, nous nous réunissons et nous prenons la décision d'aller tous de l'avant.
Mais aussi, on voudrait savoir, parmi les recommandations, c'est pas la première fois que ce congrès se tient. Il y a eu deux éditions qui se sont tenues, si j'ai bonne mémoire, à Paris. Aujourd'hui, vous êtes en RDC. C'est la première fois que ça se tient en Afrique. Mais parmi toutes ces résolutions, quelle est la plus grande que vous avez prise et qui est déjà appliquée?
Oh, je trouvais toutes les résolutions étaient grandes, étaient merveilleuses, d'autant plus qu'elles sont là pour revaloriser la femme, elles sont là pour que la femme ait encore plus de l'avant. Par exemple, il y a eu des résolutions qui sont là pour protéger la femme. J'ai dit non et j'ai agi. C'est vrai que c'est déjà un slogan, mais maintenant, les congrès veulent que ça ne soit plus un slogan, mais qu'il y ait, que les institutions en place puissent créer des structures qui vont contribuer à la prise en charge des femmes violées, qui vont prendre en charge aussi les enfants victimes des viols, pour que cela ne soit pas un handicap pour leur avenir.
Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est déjà dit?
Comme on dit, on ne cessera jamais de le dire. Si ça a été dit, il faut encore le dire pour que, c'est en le disant plus, en le matraquant plus, que les institutions vont peut-être comprendre et qu'ils vont créer des structures.
Mais nous allons prendre notre auditeur. Il s'agit de Rombo qui nous appelle de Lubumbashi. Bonjour Rombo.
Bonjour.
Oui, Rombo, vous écoute.
Oui. Bon, moi, je suis en train de suivre l'émission telle qu'elle est en train de se dérouler. Je voulais vraiment, je voulais dire que j'apprécie et je félicite beaucoup cette organisation, cette tenue du congrès des femmes. Mm-hmm. Néanmoins, il y a un problème qui m'a un peu stigmatiqué et qui nous a un peu tiqué. C'est le fait que nous ne sommes plus au temps où nous devons toujours penser à ce qui a trait à la race et autres. Nous sommes dans une période de mondialisation, nous devons toujours voir loin au lieu de voir seulement ce qui est attaché à la couleur. Je sais que même les femmes d'autres couleurs ont certaines expériences qui peuvent aider nos sœurs ici au Congo. Moi, je croyais que si ce congrès-là pouvait élargir le spectre, arriver à y associer aussi certaines femmes d'autres couleurs pour partager leur expérience. Ça, c'était ma façon de voir. Et la deuxième façon de voir, je souhaite que ça ne soit pas, que ça ne s'arrête pas au niveau de simples déclarations, qu'ils soient des garde-fous que le congrès a pris pour que toutes les résolutions qu'ils ont prises là ne puissent pas rester lettres mortes ou dans leur tiroir, pour qu'on reste seulement avec des slogans et des souvenirs qu'au Congo on avait tenu un congrès de femmes, tout ça. Et moi je préfère qu'il y ait des garde-fous, il y ait des choses qu'ils ont déjà mises sur pied pour arriver à concrétiser les choses qu'ils ont arrêtées. Mais je sais que, le pays c'est un grand pays, nous sommes habitués aux discours, mais que ça ne soit pas toujours ces discours qui doivent toujours revenir. Nous n'allons pas nous rassasier des discours. Nous ne sommes pas à la période où nous devons toujours vivre des discours, nous voulons voir les congrès. Mm-hmm. Voilà ma contribution, ce que je voulais apporter à ceux qui le ont fait. Mais ce sont des choses à encourager, ce qu'ils ont fait, ça montre à ce qu'ils ont, que les femmes sont en même aussi de faire quelque chose, nous devons les encourager et qu'ils ne se limitent pas au niveau des discours.
Merci beaucoup, Rombo, de votre participation et vos propositions par rapport au thème d'aujourd'hui. Et bonne journée. Nous avons Polybé qui nous appelle de Kindu. Bonjour, Polybé.
Bonjour, Marie-Chantal.
Oui, Polybé, que représente pour vous ce congrès qui s'est tenu ici en RDC?
En tout cas, ce congrès est d'une très grande importance. Nous sommes à Kindu et nous sommes tellement très contents de l'organisation de ce congrès et surtout qu'il a été organisé chez nous à Kinshasa. Cela prouve que notre pays sort petit à petit de son isolement diplomatique. Vous savez que le pays était devenu infréquentable. Alors, ce que je dois demander, c'est que les pays dont sont venues toutes ces femmes sont pauvres et qui n'ont rien à donner à la RDC, à part les beaux discours. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que notre pays ou notre première dame, il n'y a pas moyen que notre pays ou notre première dame soit en contact permanent avec les autres femmes, et surtout les femmes de la couleur blanche, entre guillemets, qui sont dans des pays riches et qui ont des maris, qui ont des moyens, et s'attacher à la femme, par exemple, la première dame de la Somalie. Je pense que dans ces pays, nous ne pouvons rien avoir.
Donc, il faudrait utiliser les relations pour les intérêts du pays. C'est ce que vous voulez dire?
C'est ça. Mm-hmm. Et non faire des problèmes un peu protocolaires ou satisfaire des amitiés qui ne peuvent rien apporter au pays.
Oui. Et ça, c'est la proposition que vous faites. Merci beaucoup, Polybé, de nous avoir appelé de Kindu au Maniema. Madame Tina Bumba, vous avez suivi nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez répondre à leurs préoccupations?
Oui, je veux répondre d'abord au premier, celui qui a parlé de pourquoi parler de la femme noire. Je veux juste lui dire que c'était l'événement a eu lieu parce que la femme noire du continent africain, enfin la femme africaine, recevait solennellement la femme noire aussi de la diaspora, mais qui est d'origine africaine, qui a été déportée il y a 4 siècles par la traite des esclaves. Donc on avait nullement l'intention de créer comment on peut dire un sectorisme ou quelque chose comme ça pour dire qu'il y a la ségrégation, la séparation ou il y a le racisme. Non. C'était juste réconcilier la femme noire déportée il y a 4 siècles par la traite des esclaves et celle qui est restée dans les continents. Mmh. Et que celle-ci, en revenant en Afrique, qu'elle puisse se rendre compte des conditions économiques, des conditions sociales ou de n'importe quelle condition dans lesquelles vivent les femmes qui sont en Afrique. Parce qu'elles sont allées, elles ont été déportées, elles se sont reconstruites, elles ont trouvé du travail, elles ont eu des possibilités, elles ont fait de grandes entreprises. En revenant en Afrique, ils vont voir les conditions dans lesquelles évoluent les femmes africaines et elles ont la possibilité sûrement de créer des entreprises et d'aider celles qui sont restées. Je vais te donner un exemple. Il y a eu des modules de formation qu'on a donné aux femmes. Par exemple, il y avait un module qui avait pour thème « Comment gérer les finances de la maison et les revenus de quelconque activité mm-hmm. ». C'est une grande expérience pour les femmes de savoir partager ses revenus propres qui reviennent d'une activité et l'argent paye de la maison. Mm-hmm. Il y avait plusieurs formations, il y avait l'image de soi, il y avait les coachings, on aidait les femmes à découvrir leurs talents, à les mettre en valeur et aboutir à quelque chose. Mm-hmm. Donc c'est un peu ça pour répondre.
Mais aussi, Rombo, en fait, de Lumbashi, qui est le premier intervenant, a voulu savoir pourquoi ne pas élargir cela à d'autres femmes pour pouvoir échanger les expériences.
Si nous sommes en train d'élargir toute chose à un début, Kinshasa, ça n'a été qu'un début. Mais par contre, il y a eu les femmes de plusieurs provinces qui sont venues. Ces femmes leaders ont été formées pour qu'à leur tour, en retournant sur leurs bases respectives, qu'elles puissent aussi former les mamans de leurs bases. Mm-hmm. Mais d'ici là, ce sont des projets que nous étudions pour aller dans toutes les régions et former les femmes. Mm-hmm.
À comprendre, Rombo, c'était plus élargir à d'autres femmes, d'autres races, des blancs.
Oui, il y en a eu. Pas eu l'occasion de suivre à la télé, il y a eu de d'autres races, mais qui ont parlé de l'Afrique, plus que nous. Mm-hmm. On a même su que Congo voulait dire léopard semblable. Mm-hmm. Par contre, il y a des femmes qui sont nées en Afrique, qui habitent ici, qui n'avaient pas certaines significations, qui ne connaissaient pas l'histoire, par exemple, du Congo. Mais ces femmes qui sont venues de l'extérieur nous ont appris des choses que nous-mêmes, nous ne connaissons pas.
Et par exemple, vous pouvez me donner un exemple?
J'ai pas tout ici, mais ils nous ont parlé de princes, de rois qu'il y a eu au Katanga, alors que dans la salle, il y avait deux princesses. Il y avait la princesse Dominique Monongo, il y avait la princesse Adèle Kaïnda. Vous vous rendez compte? Mm-hmm. Une personne qui vient de l'extérieur, qui vous a jamais vu, qui ne connaît même pas le Congo, qui n'a jamais vu, mais qui raconte l'histoire du Congo dans la profondeur jusqu'à remonter à l'époque du royaume.
Mmh. Bon, nous allons prendre d'abord notre auditeur qui nous appelle de Kinshasa, je crois, et c'est Madame Nyangui, elle est présidente de l'Association des femmes juristes du Congo. Bonjour, Madame.
Bonjour.
Et Madame, on vous écoute.
Je pense que vous devriez me poser une question.
En fait, nous sommes en train de parler du troisième congrès international de la femme noire qui s'est tenu à Kinshasa. Et nos principales questions, c'est d'abord que représente pour vous ce congrès tenu à Kinshasa, et aussi, selon vous, que faut-il faire pour la promotion des ressources de la femme et renforcer son implication dans les milieux de prise de décision. Voilà, madame.
D'accord. D'abord, je vais dire que malheureusement, j'ai pas pu participer au congrès, donc je saurais pas vous donner mon avis là-dessus. Mais en ce qui concerne l'implication de la femme dans la sphère de prise de décision, je pense au départ, et c'est un avis tout à fait personnel, il faudrait d'abord une réelle volonté d'impliquer la femme dans la sphère de prise de décision. Parce que, vous voyez, ce sont, finalement, lorsqu'on nomme des ministres, on nomme, etc., ce sont des hommes qui prennent des arrêtés, qui prennent les textes qu'il faut, n'est-ce pas, pour nommer. Alors, si déjà au départ, les femmes qui sont proposées ne sont pas nommées, c'est déjà un problème. On ne va pas nous dire qu'il n'y a pas de femmes compétentes au Congo, il y en a beaucoup. Alors, pourquoi est-ce que lorsque au nom des ministres, il y a si peu de femmes? Donc déjà, il faut une réelle volonté. Ensuite, il faut comprendre, et là, c'est chacun de nous dans ce pays qui doit comprendre que la femme a un rôle très important à jouer dans le développement du pays. Il faut que l'on respecte également les textes, c'est-à-dire la Constitution, les conventions internationales qui ont été ratifiées par la RDC, et qui placent la femme en ordre utile. Donc, ce sont des choses qu'il faut déjà appliquer et qui permettraient, si l'on veut, de propulser la femme, n'est-ce pas, dans les sphères de décision. Ensuite, je pense qu'il faut que la femme elle-même puisse reconnaître sa place, qu'elle puisse exiger que l'on puisse la lui donner. Et là, je vais peut-être choquer certains. Je pense que les femmes doivent arrêter de se contenter du peu qu'on lui donne. Parce que souvent, on entend un discours du genre, oui, ce n'est qu'un début. Pour un début, nous remercions de ce qu'il y ait 3-4 ministres, etc. Mais je dis non, qu'on arrête. Depuis combien d'années est-ce qu'on est en train de faire le début? Mais il y a toujours autant d'hommes, beaucoup plus d'hommes au gouvernement que de femmes. Et dans les différents milieux de décision, au Parlement, etc. Donc, il faut que la femme également, c'est-à-dire, pousse et un grand coup de gueule, excusez-moi le mot, et que, bon, les choses puissent bouger différemment. Donc, ça, c'est ce que je pourrais dire. La femme doit également être formée. Mais là, je salue, n'est-ce pas, ce qui a été fait au niveau du Congrès, les différentes formations. Je suis d'accord avec l'auditeur qui a dit qu'il fallait continuer, qu'il fallait aller de l'avant, ne pas s'arrêter à Kinshasa, et dans Kinshasa même, continuer à faire cette formation-là, de façon à ce que le plus de femmes possible puissent être formées et sachent ce qu'elles doivent faire pour aller de l'avant.
Mais à votre niveau, quand même, vous êtes présidente d'une association des femmes juristes du Congo, qu'est-ce qui est déjà fait? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire sur le terrain?
Voilà. Donc, en ce qui nous concerne, vous l'avez dit, les femmes juristes, c'est pas du Congo, mais congolaises. Hein,
congolaises.
C'est un peu différent. Alors, donc, au niveau de l'association, nous nous basons sur le plan juridique. Et pour permettre à la femme, j'ai parlé de la formation tout à l'heure, de connaître ses droits, parce qu'il faut qu'elle connaisse ses droits pour pouvoir les revendiquer et pour qu'elle arrête d'être victime de toutes sortes de violations. Et donc, notre cheval de bataille est de faire connaître à la femme ses droits et nous appliquons les hommes pour pouvoir les respecter. Et nous faisons de la sensibilisation sur les différents textes de loi qui octroient des droits d'avantage aux femmes.
Merci beaucoup, Madame Nyamouli, d'avoir participé à cette émission, d'avoir donné vos avis et aussi vos propositions pour que la femme puisse s'épanouir davantage.
Merci.
Soucieux de vous servir, Radio Okapi met à votre disposition toute une équipe de reporters et de présentateurs. Ils voient ce que vos yeux ont appris à ignorer, s'intéressent à vos problèmes et surtout aux solutions possibles. S'inquiète de l'absence de suivi et réfléchisse avec vous. Okapi Service, une émission qui vous met au centre des préoccupations, les vôtres, de lundi à vendredi, à partir de 9h, heure de Kinshasa.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net.
pour les auditeurs qui viennent de se brancher sur Radio Capi, c'est votre émission Parole aux auditeurs et Parle aux auditeurs est centrée ce lundi 7 décembre sur la situation socio-économique et politique de la femme en marge du 3e congrès international de la femme noire. Ce congrès qui s'est clôturé la semaine dernière et ce congrès avait pour thème la promotion des ressources de la femme africaine pour le développement. Un congrès qui se tient au moment où les femmes leaders poursuivent leur plaidoyer pour la mise en application concrète de la parité homme-femme dans tous les secteurs d'activité en vue de son épanouissement. Et les questions que représente pour vous ce congrès tenu en RDC, selon vous, que faut-il faire pour la promotion des ressources de la femme et renforcer son implication dans les milieux de prise de décision? Vous pouvez participer comme l'a fait Poly B, comme l'a fait Rombo de Lumbashi, aussi Madame Soulia, c'est tout à fait simple, vous nous appelez au 081-99-77-800 et nous vous rappelons, soit vous pouvez nous écrire par internet à l'adresse pa@radiookapi.net. Et nous avons invité Madame Tina Abumba Lessi, elle est chargée de communication et presse à Africa Femmes Performantes, une structure qui a organisé ce congrès. Nous avons Benoît qui est en ligne, il nous appelle de Kananga. Bonjour Benoît.
Bonjour madame.
Oui Benoît, on vous écoute en rapport avec ce thème.
Oui, ce qui est beau, c'est que nous devons saluer l'initiative. Lorsque on a tenu le 3e congrès de la femme, c'est très génial, c'est une bonne idée. Mais ce qui est regrettable, c'est que notre pays, il y a toujours de beaux discours, nous avons toujours de beaux textes, mais le grand problème est que l'applicabilité de ces textes-là. Est-ce que on a déjà analysé combien de fois on a parlé de parité quand on fait le tour de notre République, pendant les ministères, combien de ministres femmes qu'on a, de gouverneurs de province, combien de ministres de gouverneurs de province femmes qu'on a, les mandataires de l'État, combien de mandataires qui sont de femmes. Donc c'est vraiment regrettable, nous saluons l'initiative et nous demandons pour cette fois-ci qu'il y ait maintenant des mesures d'applicabilité. Donc c'est notre souci majeur pour l'instant.
Et qu'est-ce que vous proposez, hein? Qu'est-ce que peut faire la femme d'abord elle-même pour que ça puisse se concrétiser?
Alors d'abord, il faudrait que les femmes prennent conscience d'elles-mêmes, qu'elles sachent qu'elles sont responsables de leur mise à niveau. Donc, les femmes doivent se solidariser. Et des fois, on a vu avec les élections, les femmes n'ont pas voté pour les femmes. C'est d'abord un grand problème. Et puis, s'il y a des fois les femmes qui veulent avancer, ce sont toujours les femmes qui elles-mêmes. Ça font des choses que les femmes, elles, ne puissent pas aller de l'avant. Elles votent toujours pour les hommes, et pourtant, il faudrait que les femmes puissent se réunir ensemble. Et puis enfin, il faudrait que les femmes prennent conscience. Et puis, on envoie les femmes plus dans les écoles de formation et de différentes disciplines pour que la promotion puisse être effective.
Merci beaucoup, Benoît. Hein. Vous pensez qu'il faudrait compter sur l'éducation de la femme, il faudrait que la femme elle-même prenne conscience de ce qu'elle doit faire pour pouvoir s'épanouir. Et vous avez aussi dit qu'il ne faudrait pas que les résolutions restent lettres mortes. Merci beaucoup d'avoir participé. Il y a Aziza qui est à Bukavu. Bonjour Aziza.
Oui, bonjour madame Marie-Chantal.
Oui, on vous écoute Aziza.
Ok, merci de la parole accordée. Moi aussi, comme tous les autres auditeurs, moi aussi je me félicite de l'organisation des faits concrets pour les femmes. Mais malheureusement, j'ai eu à constater, partant de mon constat, j'ai constaté que les femmes, on n'a pas associé à ce congrès les femmes de la joie, elles n'étaient pas représentées. Bien qu'on dit qu'on peut donc déléguer les femmes qui ont participé pour qu'elles puissent aussi sensibiliser les autres, mais il fallait aussi qu'elles aussi, même une ou deux femmes de la joie, qu'elles soient aussi participées à ce congrès-là. C'est ce que j'ai à constater tout d'abord.
Oui. Aziza, quand vous parlez de femmes villageoises, vous parlez de femmes paysannes ou bien les femmes qui... Est-ce que vous pouvez spécifier pour mieux comprendre, qu'on puisse mieux comprendre?
Donc les femmes paysannes, celles qui sont là au fond, même à l'intérieur du pays, même là à Kinshasa, celles qui n'ont pas eu l'occasion soit d'étudier
Donc, il faut qu'elle puisse aussi participer à ces congrès. C'est ce que moi, j'ai à constater. Alors, partant de votre question, qu'est-ce qu'il faut que les femmes aussi participent à la prise de décision?
Mm-hmm.
Moi, je pense que, premièrement, il faut d'abord assainir le mental de la femme congolaise. Parce que les statistiques nous montrent qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes au monde que les hommes.
Mm-hmm.
Mais malheureusement, le constat que j'ai à constater, parle de peut-être que cette allégation, donc cette allégation est beaucoup, il y a un paradoxe autour de cette allégation-là. Donc il y a beaucoup de femmes, mais malheureusement, les leaders femmes sont très nombreuses. Pourquoi? Entre autres raisons qui justifient ces paradoxes, moi je dirais que, donc il faut d'abord que la femme elle-même, il y a une sous-estimation de la femme. Il faut qu'il y ait une prise de conscience de la femme, comme l'a dit mon prédécesseur. La femme qui soit aussi capable, que sa personne, qu'elle est capable de s'engager dans tous les points de vue de politique, économique, qui peut aussi apporter sa pierre de contribution.
Mm-hmm.
Donc, il faut que la femme puisse aussi prendre une plus de conscience.
Mm-hmm. Et vous avez des propositions plus concrètes pour permettre cela?
Bon, d'une part, moi, je dirais que même au niveau des scolaire, au niveau des universités, il y a toujours une faible représentativité des femmes par rapport aux hommes. Donc il faut sensibiliser les parents qui puissent envoyer leurs enfants à l'école pour qu'ils puissent aussi une question être nombreuses. Mais aussi, je m'adresse aussi à celles qui sont des intellectuels, les femmes qui étudient. Vous voyez, j'ai aussi à constater dans ce conseil que même au niveau des familles, les femmes ne veulent pas s'engager. Elles ne veulent pas s'engager, par exemple, à l'ère de l'information. Vous voyez les femmes qui se retirent, elles ne veulent pas suivre les informations, alors que ça aussi, ça contribue à une prise de conscience. Il faut savoir ce qui se passe dans votre pays. Mais les femmes ne veulent pas suivre les informations, elles ne veulent pas s'engager dans la vie politique de leur pays. Donc ça aussi, c'est un problème. C'est un défi qu'il faut justement relever. Oui? Allô?
Parole aux auditeurs.
Oui, voilà, Aziza nous a expliqué, nous a donné ses points de vue par rapport à la situation actuelle que connaît la femme sur le plan économique, social et culturel même. Comment est-ce que la femme peut s'épanouir? Pour elle, il faudrait que la femme elle-même se rende compte de ce qu'elle doit faire aussi. La femme se sous-estime, c'est pourquoi des fois il est très difficile pour elle de pouvoir s'épanouir. Nous avons Émilie qui nous appelle de Lubumbashi. Bonjour Émilie.
Bonjour madame la journaliste.
Oui, Émilie, je voudrais savoir en fait, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la femme puisse s'épanouir et surtout ce qui concerne la promotion des ressources aussi, le renforcement de son implication dans les milieux de prise de décision.
Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. En tout cas, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que mes prédécesseurs ont dit. Vraiment, je trouve que c'est une première dans notre pays, hein, c'est bien. Il faut que l'enfant puisse s'épanouir et tout doit partir des congrès tels que celui qui venait d'être organisé.
Mm-hmm.
Mais mon souhait était d'être là aussi. Malheureusement pour moi, j'avais reçu l'information en retard. Alors je voudrais dire ceci, je voudrais demander aux organisatrices si à la clôture, ils auraient pu arrêter une date, comme ça dans les jours à venir, pour prendre les dispositions pour être là aussi.
Mm-hmm.
Parce que nous, on est en province, donc c'est comme si les femmes de Kinshasa avaient été privilégiées de l'Europe, oui, parce qu'elles avaient été contactées avant, hein. Mais nous souhaiterions aussi apporter quelque chose, vraiment c'est une bonne chose, c'est une initiative que nous encourageons.
Mm-hmm. Merci beaucoup, Émilie, pour votre question. Nous allons la poser directement, d'ailleurs, notre invitée qui est en ligne. Il s'agit de Madame Tina Abumbalesi, qui est chargée de communication et presse à Africa Femme Performance, la structure qui a organisé le congrès, pourra vous répondre. Merci beaucoup d'avoir participé.
Merci.
Oui, Madame Tina Abumba, vous avez suivi tous nos auditeurs et auditrices qui ont posé des questions d'éclaircissement, mais aussi qui ont donné certaines propositions pour l'épanouissement de la femme. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre?
Premièrement, j'aimerais ajouter quelque chose à l'intervenante qui a parlé de l'éducation.
Mm-hmm.
C'est vrai que pour que la femme un jour qu'il y ait une parité, qu'il y ait un partage équitable du pouvoir entre les hommes et les femmes, déjà de par le monde et plus précisément dans notre pays, il faut que déjà à partir des familles, à partir de foyers, que les parents prennent conscience de donner les mêmes chances aux filles d'aller à l'école que le garçon. Compte tenu des difficultés financières, les parents ont beaucoup plus tendance à privilégier les garçons à aller à l'école que les femmes. Donc, on aimerait bien qu'à partir de familles déjà, on puisse privilégier aussi, ou qu'on puisse donner la même chance qu'on donne aux hommes, aux femmes d'aller à l'école. C'est pour ça que l'intervention du ministre de l'Éducation au dernier jour de la clôture était très importante dans le sens où il avait insisté sur l'aspect tel que les parents, les familles puissent envoyer les filles à l'école au même titre d'égalité que les hommes. Parce que les femmes instruites qui vont de le bas âge et qui vont à l'université, qui font de grandes études, ont plus la possibilité de participer à la gestion de la chose publique qu'en les privant d'aller à l'école.
Il y a plusieurs intervenants qui sont revenus sur l'application effective des résolutions de ce genre de
problème. Déjà, avec les résolutions, il y a une commission de suivi. Nous allons nous battre. C'est vrai que tout le monde s'est plaint. On fait des beaux discours dans ces pays, de grands discours. Après, ils ne sont pas mis en application. Mais c'est pour cela que nous nous battons aussi. Mm-hmm. Que cela ne reste pas au niveau des slogans, que cela ne reste pas au niveau du parler, mais qu'il y ait une exécution effective de ces résolutions-là sur le terrain et que nous puissions le voir. Mm-hmm. Résolution de donner la même chance d'égalité aussi dans l'école. Résolution de créer des structures de mise en place pour aider les femmes violées ou victimes de la guerre et aider aussi les femmes financièrement. Il y a eu par exemple une résolution qui n'a même rien à voir avec les institutions, mais qui a trait aux finances. Mm-hmm. C'est-à-dire, nous avons demandé aux banques et aux institutions de microcrédit qui accordent des crédits aux femmes, d'alléger les conditions d'obtention des crédits et également de revoir les taux d'intérêt. On ne peut pas donner à une femme 100 dollars pour commencer un commerce et à la fin que la femme se retrouve ruinée.
Et donc, ce sont ça, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Vous êtes allé vers les banquiers ou bien
c'est encore... Voilà, c'est ça qu'il y a maintenant une commission. Donc, après les congrès, là, tout le monde est allé un tout petit peu en réponse. Mais on attend, après une semaine, nous allons nous réunir pour faire un suivi préalable de toutes les résolutions prises au Congrès.
Et il y a Madame Micheline, qui nous a parlé à partir d'ici de Kinshasa. Bonjour, Madame Micheline.
Bonjour, Madame.
Oui, Madame Micheline, selon vous, que faut-il faire pour la promotion des ressources de la femme et renforcer son implication dans les milieux de prise de décision?
Oui, moi, j'ai été vraiment contente de cette initiative, mais il y a eu un problème, là, parce que il paraît pour participer à ce congrès-là, il fallait donner de l'argent. Mmh. Or, c'est pas toutes les femmes qui pouvaient avoir de l'argent pour aller donner. Il y a eu des gens qui ont donné des 700 dollars, 50 et tout, et 1000. Et là, ça ne va pas. Mmh. Et pour la femme pauvre, là, qui n'a rien du tout, donc elle est sacrifiée.
Mmh.
C'était ça ma préoccupation, merci.
Oui, merci beaucoup madame. Mais est-ce que vous avez aussi des propositions concernant l'épanouissement de la femme noire?
Des propositions, toutes les précédentes femmes ont donné des propositions, elles sont bonnes, elles sont... C'est à madame Tina de voir comment, dans leur organisation, comment pouvoir... aider les femmes à s'épanouir.
Mmh. Oui. Merci beaucoup, Madame Micheline, pour votre question et votre préoccupation concernant l'organisation de ce troisième congrès international de la femme noire. Bonne journée, Madame.
Merci à vous
aussi. Et à Mademoiselle Baudune, elle est à Goma. Bonjour, Mademoiselle Baudune.
Oui, bonjour.
Oui, Mademoiselle, on vous écoute.
Oui. Je m'excuse, je viens de vous écouter maintenant, là, c'est concernant l'épanouissement de la femme.
Oui, c'est ça, madame.
Oui. Pour parler de l'épanouissement de la femme, je vais d'abord dire que pour que la femme soit épanouie, il faut qu'elle-même manifeste cette volonté-là. Mm-hmm. Pour que, bien sûr, les autres viennent à son secours.
Mm-hmm.
Parce que ce que nous observons ici au Congo, disons en Afrique, Il y a plusieurs femmes qui ont toujours réclamé la parité, d'autres disent qu'elles ne sont pas considérées, mais en réalité, si on peut voir en termes statistiques, les femmes qui montrent le fait volonté réel de participer à la prise de décision, elles sont vraiment moins nombreuses.
Par exemple, chez vous à Goma, comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qu'il faudrait?
Chez nous, à Goma, il y a des femmes qui manifestent cette volonté, mais il y a un problème qui se pose au niveau de la société. En Afrique, on a toujours considéré qu'une femme qui a d'ambition, une femme qui a toujours voulu être considérée dans la société, beaucoup, la plupart des cas, les gens pensent que c'est une femme difficile. C'est ça c'est le premier problème. Donc, si on est femme et qu'on veut se faire utile ou bien qu'on veut montrer ses capacités, les gens ont toujours compris que non, ça c'est une femme difficile, d'ailleurs, vas-y, voir que si elle est là, et c'est là, c'est pour nous que les autorités qui font que la femme ne soit pas épanouie.
Oui.
Donc, pour l'épanouissement de la femme, il y a plusieurs aspects, surtout social, ou disons, il y a des aspects sociaux au niveau, par exemple, de la coutume, où la femme est moins valorisée. On a toujours pensé que la femme ne peut pas prendre la première place. Et c'est là, comme je l'ai précédemment dit, parce qu'on considère qu'une femme qui a d'ambition, qui a des idées, qui veut se former, c'est une femme difficile.
Oui, est-ce que ce que vous voulez dire par femme difficile, est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs pour qu'ils comprennent?
Ça veut dire que je ne sais pas comment je vais l'expliquer, mais par exemple en Afrique, quand on dit que c'est une femme difficile, donc on dit que même si elle est mariée chez son mari, le mari n'aura pas un mot à parler au devant d'elle, qu'elle travaille dans la société, elle va se considérer comme un homme, elle va oublier sa place de femme. Donc les gens ont toujours tendance à croire que la femme là qui veut être épanouie, qui veut participer à aux constitutions de son pays, les gens disent qu'elle est vue dans ce sens-là, donc elle n'est pas comme d'autres. Donc, à cela, nous comprenons justement que c'est l'égoïsme masculin qui prône. Et à cela, justement, ça affaiblit la femme de façon qu'on dit que non, c'est une femme très difficile, non, cela, on ne peut pas en parler.
Oui.
Donc, c'est ça.
Et mademoiselle Audine, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire pour changer cette image?
Pour changer cette image, justement, changer l'image, c'est le faire le contraire. Que les gens ne pensent pas qu'une femme épanouie, qu'une femme instruite, c'est une femme difficile, qu'une femme compliquée. Donc, c'est le changement de mentalité de par les hommes, que le rythme masculin cesse. Que les hommes ne pensent pas que c'est ça. Ce sont eux qui peuvent avoir le mot à dire que c'est d'eux que proviennent toute la prospérité, que c'est chez eux que provient l'intelligence, mais aussi que des femmes ont des mots à dire et quand ils voient ce genre de femmes ou de filles, qui n'est pas ces idées-là qui sont des femmes difficiles dans la société, difficiles à comprendre.
Merci beaucoup, hein, mademoiselle Baudouin. Hein, vous nous appelez de Goma au Nord Kivu.
Merci beaucoup.
Et si on prenait rendez-vous, juste pour vous agrémenter votre début d'après-midi, 5 jours par semaine pour parler culture, mais aussi femmes et bien-être. C'est tout simplement Métissage, de lundi à vendredi, à partir de 13h, dans le Kinshasa.
Eh bien, pour les auditeurs qui viennent de se connecter sur Radio Clapy, c'est l'émission Parole aux auditeurs qui se poursuit aujourd'hui. Parole aux auditeurs est centrée sur la situation socio-économique et politique de la femme en marge du 3e congrès international de la femme noire, ce congrès qui s'est tenu ici à Kinshasa. Et les questions pour en parler, que représente pour vous ce congrès tenu en RDC? Selon vous, que faut-il faire pour la promotion des ressources de la femme et renforcer son implication dans les milieux de prise de décision? Et pour en parler, nous avons invité Madame Tina Abumba-Lessi. Elle est chargée de communication et presse à Africa Femmes Performance, la structure qui a organisé ce congrès. Madame Abumba, vous avez suivi nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez leur donner certaines réponses à leurs préoccupations?
Je réponds à l'intervenant de tout à l'heure qui a dit que nous avons demandé de l'argent aux femmes. J'aimerais donner une petite précision. Les femmes qui ont payé 50 dollars, ce sont les femmes qui ont adhéré à Africa Femmes Performantes. Vous le savez sans doute que les associations, pour des associations, il y a des membres. Il y a des membres d'honneur, il y a des bienfaiteurs, il y a des membres. Et que cela demande une certaine adhésion.
Donc, les femmes qui avaient payé 50 dollars, ce sont des femmes qui ont adhéré à Africa Femmes Performantes, mais qui n'a rien à voir avec le congrès.
Il paraît qu'ils ont demandé, je vous avais demandé jusqu'à 1000 dollars, et ça revient aussi à la question
non,
qui a demandé pourquoi
on n'a pas, pas imposé un prix. Mm-hmm. C'est selon la personne qui veut être membre, qui veut être bienfaitrice, c'est-à-dire qui, tout au long de sa vie ou de son adhésion, contribuer à des actions que Africa Performante va mener vers des femmes en donnant un certain montant. Mmh. C'est à la femme de choisir sa catégorie. C'est ça qu'on a mis du plus petit au plus grand pour que tout le monde puisse se retrouver.
Mmh. Il y a aussi Aziza qui voulait savoir pourquoi vous n'avez pas associé les femmes, comme elle a dit, les femmes villageoises, dont les femmes paysannes, pour participer.
Nous avons travaillé en collaboration avec le ministère du Genre, Famille et Enfants, qui regorge aussi à son sein plusieurs associations, plusieurs organisations non gouvernementales des femmes. Et l'information a été réélevée jusqu'aux provinces. Mmh. Donc les femmes qui étaient aux provinces, normalement selon des structures, devaient réélever l'information jusqu'à la base. Mmh. Mais si cela n'a pas été fait, nous avons l'opportunité prochainement d'inviter toutes ces femmes-là. C'est ça que je vous ai dit au début, que cela ne se limite pas seulement à Kinshasa. Nous comptons étendre ça plutôt dans toute la République. Mmh. Et nous comptons, lors de prochains congrès ou de prochaines formations, qu'il y ait plus de femmes. Mmh. Nous voulons qu'il y ait plus de femmes. Nous voulons des femmes maraîchères, parce que nous devons apprendre à ces mamans maraîchères comment multiplier leur production, comment conserver leur argent, subvenir aux besoins de la famille, tout en économisant un tout petit peu de côté.
Mmh. Et aussi, nous savons bien que les coutumes, il y a certaines coutumes qui entravent l'épanouissement de la femme, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour...
Parmi les résolutions, nous avons dit qu'il y ait révision. Il y a certaines lois, c'est vrai, il y a certaines coutumes qui ne facilitent pas la tâche à la femme d'aller de l'avant. C'est ça que ça doit, c'est un combat aussi de changement de mentalité.
Mmh.
La femme doit prendre conscience. Il faut que l'information circule. Il faut qu'il y ait plus des émissions comme vous le faites là, radiophoniques, télévisuelles, qu'il y ait des écrits, qu'il y ait des formations, que l'information soit reliée même au niveau des quartiers pour que la femme prenne conscience de ne pas demeurer dans l'état passé. Elle doit changer d'état et que le monde évolue et la femme doit évoluer en même temps que le monde.
Mais est-ce que vous-même, vous allez vers les chefs coutumiers pour essayer d'expliquer, de pouvoir savoir comment est-ce que ça peut évoluer?
J'estime qu'avant de voir les chefs coutumiers, ce serait mieux que la femme soit informée. Que la femme soit d'abord informée elle-même. L'information sécurise, l'information donne l'assurance. Que la femme prenne conscience que le monde évolue et que j'ai droit à l'éducation. J'ai le droit d'exercer une activité, j'ai le droit d'exercer une fonction. On a beau parler aux chefs coutumiers, mais si les femmes ne comprennent pas qu'elles ont un rôle à jouer dans le développement du pays, je ne vois pas l'importance d'appeler aux chefs coutumiers.
Je pense que peut-être les chefs coutumiers pourraient être même la voie légale, le processus normal pour parler à...
Mais de par déjà leur nature, comme ils ne veulent pas que nous puissions progresser, nous devons d'abord nous-mêmes commencer les combats et ensuite on va voir.
Merci beaucoup, madame.
Parole aux auditeurs.
Nous avons encore deux auditrices, il s'agit de Christelle qui nous appelle de Bukavu et Cécile d'ici de Kinshasa. Bonjour Christelle.
Bonjour madame.
Oui Christelle, quelles sont les propositions que vous faites pour l'épanouissement de la femme, aussi son implication dans les milieux de prise de décision?
Pour moi les propositions c'est d'abord au niveau de l'école et au niveau de la famille. Parce que dans le milieu où je vis, la femme elle est très très soumise à son mari. Alors déjà dès le départ, lorsque une petite fille voit la manière dont le papa traite sa femme, automatiquement elle se dit que elle n'a rien à apporter à la société à part le fait de concevoir et de mettre au monde. Elle ne peut rien donner comme proposition, elle ne peut pas prendre de grandes décisions concernant sa vie. Et aussi au niveau de l'école, c'est vrai que avec le programme de l'accélération de l'éducation des jeunes filles, c'est bien. Mais ça, c'est juste peut-être au niveau pour plaire à l'international. Mais dans la pratique, c'est quelque chose de difficile parce que les filles, elles ne se sentent pas directement concernées par cela du fait qu'elles n'ont pas ça dans leur tête. Un autre, autre chose n'est pas le fait de vouloir devenir une grande dans la société. Donc moi, je pense que faut préciser au niveau de l'école, déjà de la maternelle et le primaire, et au niveau de la famille.
Au niveau de la famille, vous avez parlé de la soumission. Est-ce que vraiment la soumission peut vraiment empêcher un échange ou bien une discussion?
Oui, moi je me dis que la soumission peut l'empêcher dans le sens où c'est une soumission excessive. C'est vrai que la femme doit être soumise à son mari, mais la femme doit aider le mari à prendre de grands défis. Quand le mari ne donne pas à la femme sa place de femme, quoi, donc sa place de d'une personne qui peut aussi faire un apport dans la famille, je pense que là c'est vraiment un problème sérieux.
Merci beaucoup Christelle hein, pour vos propositions. Il y a aussi Cécile. Bonjour Cécile.
Bonjour madame.
Oui Cécile, on vous écoute.
Oui madame, moi j'ai bien suivi tout ce qui a été dit, mais il faut qu'on se dise la vérité. La femme ne peut pas se développer, ne peut pas s'épanouir aussi longtemps qu'elle n'a pas un pouvoir réel. La femme dépend jusqu'ici de l'homme. Et l'homme a tout le pouvoir entre ses mains. C'est lui qui nomme. Les soumissions, une parcelle de pouvoir, sont nommées par des hommes. Et derrière chaque femme que vous voyez, le maître ou pas, il y a toujours un homme. Et cette femme répond de cet homme qui l'a fait placer là où elle est. Et ne peut rien faire pour les autres. C'est pourquoi vous voyez, les femmes ne savent même pas se soutenir. Parce que ceux qui sont au pouvoir ne sont pas des autres parce qu'ils ne sont pas été mises pour ces autres-là. Elles font la volonté et elles sont dictées par leur maître. Alors, on se comprend que l'homme ne libère pas la femme n'ira pas de l'avant, je vous le dis. Même pour les concrets, là, les femmes qui sont venues de l'extérieur, c'est à cause des appartenances politiques ou quoi, c'est pas toutes les femmes. Moi, j'en connais beaucoup qui sont à l'extérieur et qui ne sont pas venues. Et c'est toujours derrière là, les hommes qui dictaient et qui donnaient des noms. Aussi longtemps que nous dépendons totalement des hommes, nous n'irons pas de l'avant, ça est dit. Il y a maintenant que les femmes qui réfléchissent comme moi, se mettent ensemble. Si nous sommes nommés, que nous soyons nommés pour nos propres mérites, mais pas parce que je suis femme, je suis copine, je suis amie, je suis soeur ou une cousine à un homme qui est au pouvoir.
Oui, quand même, mais quand même, pour un épanouissement, on ne peut pas parler d'épanouissement de la femme sans l'homme, hein, mais qu'est-ce que vous proposez pour que ce soit harmonieux?
Il faut que l'homme libère la femme. Il faut maintenant que des femmes soient nommées, pas parce qu'elles sont amis ou copines, mais par leurs compétences, par des mérites. Vous avez vu des choses qui se sont faites, même pour copier, des femmes qui n'ont jamais été là-bas, qui ont été nommées, tout ça. Et ça scandalise, ce n'est pas bien. Nous sommes en train de lutter contre ça, que les femmes acceptent d'être nommées dans de mauvaises conditions aussi.
Oui,
alors, nous n'irons pas bien.
Merci beaucoup, hein, Madame Cécile, de nous avoir appelé et d'avoir participé à notre émission. Nous avons un dernier auditeur, il s'agit d'Ibrahim. Bonjour, Ibrahim.
Bonjour, consoeur. Je suis très content de suivre votre émission. Et je suis content de le suivre. Nous sommes aussi sur le terrain dans le cadre du développement endogène de la femme. Bon, d'abord, nous devons être reconnaissants parce que la mise en œuvre de cet atelier République démocratique du Congo, et d'abord, nous devons remercier les autorités.
Oui, Ibrahim, bref, parce que là, vous êtes le dernier intervenant et notre émission est en train de tendre vers sa fin.
Alors, vous dites?
Oui, ça est bref, quelles sont les propositions que vous faites?
Oui, les propositions que je dois faire, c'est que les femmes puissent arriver à s'organiser, que les contacts qui ont été mis par rapport à cet atelier, qu'on puisse arriver à les capitaliser. Je veux dire quoi? Que les échanges continuent et que cela ne puisse pas s'arrêter à cet atelier ou à cette conférence, parce que c'est un grand événement.
Oui.
C'est un grand événement, il faut que les restitutions aussi puissent être faites.
Oui.
Aussi, que ce soit au nord.
Oui.
Donc, que les femmes ne puissent pas baisser les bras, c'est quelque chose que nous encourageons.
Oui.
Parce que
Ibrahim,
le gouvernement aussi.
Ibrahim,
ces échanges-là.
Ibrahim,
donc,
merci.
Nous devons remercier
Ibrahim,
les organisateurs.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Ibrahim pour votre participation. On a compris que vous félicitez en fait l'organisation de ce congrès. Madame Tina Bumbalesi, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. En conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs?
En conclusion, je voudrais d'abord répondre à la maman qui a parlé tout à l'heure sur la femme doit se libérer. Derrière chaque femme nommée, il y a un homme. C'est vrai et c'est faux. Dans le sens où j'espère que les femmes sont nommées aussi sur base de leurs compétences. Nous avons quand même des femmes qui sont des professeurs à l'université. Je ne pense pas que ces femmes-là soient nommées ou ces femmes-là exercent des fonctions parce qu'elles sont copines de telle ou elles sont cousines de telle. Il y a quand même des femmes qui sont nommées de par leurs compétences. Et je crois que dans ces pays, il y a des femmes qui ont suivi de grandes formations et qui sont capables de bouger ces pays, qui sont capables de changer le monde. Seulement, il faut qu'on leur donne l'accès. Voilà pourquoi nous nous battons pour qu'il y ait parité. Voilà pourquoi nous nous battons pour que ces femmes-là puissent accéder aussi à des fonctions. Parce que je pense qu'une femme en fonction sur à la tutelle d'un ministère ou à la tutelle d'une entreprise, il y a beaucoup de choses qui changent parce que la femme, déjà, elle a un cœur. Déjà, si les femmes peuvent diriger le monde, je crois qu'on aura moins de problèmes, moins de conflits dans le monde qu'on a actuellement. La deuxième chose, j'aimerais remercier surtout le président de la République qui a bien voulu que ces congrès puissent avoir lieu. Et je remercie aussi Mme Olive Lembe Kabila qui était la marraine de ces congrès. Mmh. Qui vraiment a tenu à ce que ce congrès se fasse.
Oui, madame, merci vraiment beaucoup. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Merci d'avoir participé. Vous êtes chargée de communication et presse Africa Femmes Performantes. Merci à France, qui nous a écrit de Vienne, aussi à Teddy, de qui nous n'avons pas pu lire leur opinion, leur avis. Nous disons merci aussi aux auditeurs. Surtout, n'oubliez pas que le prochain rendez-vous, c'est pour demain et nous parlerons des 3 ans que totalise Joseph Kabila ce 6 décembre en tant que premier président élu de la 3e République en RDC. Quel bilan faites-vous de son exercice sur le plan politique et sécuritaire économique? Quelles sont vos attentes? Réagissez dès à présent sur pa@radiocassis.net. Merci à toute l'équipe de Parole aux auditeurs, Pierrot et Lamégie, Maoundi Mkomia, Titi Mkoutou. Restez branchés sur Radio Okapi.